Jeudi 17 juin 2010. À l'école. Ils sont déjà à table quand j'arrive dans la cuisine. J'ai eu du mal à me lever ce matin. Les préparations que je fais généralement le mercredi ont été sacrifiées sur l'autel du plaisir d'un après-midi avec la petite. J'ai donc travaillé au-delà de minuit. Silencieux autour de leur petit déjeuner, le nez dans leur bol. On ne peut pas dire que la joie flotte dans cette pièce, même si Anna Nina me sourit largement en me voyant arriver. Je suppose qu'elle ressent une certaine anxiété à l'idée de venir avec moi à l'école. Il doit en être de même de son père, qui me salue simplement, sans sourire, et en replongeant immédiatement son visage dans la vapeur de son café brûlant. « Tu es prête, Anna Nina ?»«
Oui, »
me répond-elle dans le quart de seconde. « Tu peux aller te prendre un goûter sur l'étagère, tu sais où le trouver. »«
Je n'ai pas de sac. »
« Je vais t'en prêter un, ça n'a pas beaucoup d'importance. »« Et vous? Vous êtes prêt ?»«
À quoi ?»«
À la laisser aller à l'école ?»« Je ne suis pas sûre d'avoir encore le choix. »« Ne vous inquiétez pas, ça ira. »« Si vous le dites. »« Et si ça ne va pas, elle n'y retournera pas, et puis voilà. »« Et si ça va ?»
Je sens bien dans cette question l'embarras qu'il ressent à envisager les conséquences de cette initiation à la vie scolaire. La fin de l'année est proche et ça lui laissera le temps de se retourner pour réfléchir à la suite de sa vie. Je me sens cependant comme un missionnaire qui essaie de convertir des mécréants au bien fondé de sa religion. Peut-être simplement parce que je suis persuadée que cela fera du bien à la fillette. Eric est adossé à l'encadrement de la porte quand nous partons en voiture. Il sourit à sa fille, mais ses yeux sont tristes. Il semble tellement souffrir de la situation que je me sentirais presque coupable si je n'avais cette intime conviction que cela se passera bien. J'ai évidemment briefé mes élèves mardi pour leur demander beaucoup de bienveillance, de gentillesse et de douceur à l'égard d'Anna Nina, en leur expliquant qu'elle n'a pas l'habitude de voir autant d'enfants parce qu'elle a eu une vie différente jusqu'à présent, mais qu'elle a beaucoup à partager avec eux. Une classe de 22 élèves sur deux niveaux me permet d'espérer une ambiance sereine dans une situation comme celle-ci. Gaël a quand même la délicatesse de ne pas m'assaillir d'un tonitruant « alors ?» tant qu'Anna Nina est encore avec moi. D'ailleurs, elle se laisse vite embarquer par les gamines de la classe, et en particulier Charlotte, à qui j'ai donné la jolie responsabilité d'être sa marraine d'accueil. Elles sont un petit groupe de 4 filles, et Arthur, qui fait semblant de jouer juste à côté, mais qui ne perd pas une miette de leur conversation, j'en suis certaine.
Alors ? Alors quoi ? Ce que j'ai fait hier ? Du bricolage, et toi ?
T'as fini, oui. Raconte, bon sang, il t'a tout expliqué ?
Oui.
Et tu as réussi à amener sa fille à l'école ?
Non, je l'ai kidnappée. D'ailleurs, préviens-moi si les flics débarquent. De ton bureau, tu les verras débouler avant moi.
Ce que tu es drôle.
Je sais. Et toi, impatient. Pour une fois que les rôles sont inversés, tu penses bien que je vais en profiter.
D'ailleurs, c'est l'heure de sonner l'entrée en classe, non?
Non, raconte-moi au moins les grandes lignes. Je prends quelques minutes pour lui expliquer la situation de cet homme et de sa fille qui vivent depuis 7 ans dans leur roulotte. Je parle en observant Anna Nina qui sourit à ses camarades, tout en cherchant mon regard de temps en temps, pour se rassurer probablement. Charlotte l'a prise par la main et l'a emmenée à l'autre bout de la cour, dans cette petite cabane que nous avons construite tous ensemble il y a 2 ans.
Et il pense qu'il peut continuer longtemps comme ça?
Je n'en sais rien. Par contre, je crois qu'il a peur qu'Anna Nina se sente bien à l'école.
T'imagines les conséquences? Il serait obligé de se sédentariser. Quand je te dis que c'est peut-être l'homme de ta vie...
Arrête donc, c'est pas mon genre.
Je ne connais que 2 genres, le masculin et le féminin.
Que je sache, tu n'es pas attirée par les filles.
Nous ne vivons pas au même rythme. Tu sais bien qu'il faut que ça bouge dans ma vie pour que je sois heureuse, et lui traverse la journée plus lentement que le temps qui passe.
Tu es heureuse d'être hyperactive ou tu bouges tout le temps pour oublier que tu n'es pas heureuse?
Gaël, me balancer ça à 8 heures du matin, c'est vil de ta part.
C'est vrai.
Ça ferait un bon sujet pour le bac philo. Tu as 3 heures.
Je ne planche évidemment pas sur son sujet. De toute façon, ça fait des années que j'évite d'y réfléchir. Pour l'instant, j'ai installé les enfants dans la bibliothèque, sur les coussins, et j'ai proposé qu'on fasse connaissance avec Anna Nina et qu'elle nous parle de sa façon de vivre. Elle est d'accord pour répondre aux questions que se posent les autres enfants. Hier, j'ai pris soin de faire quelques photos de la roulotte et des chevaux pour avoir un support de départ.
Tu as une chambre pour toi dans la roulotte ?
Je dors sur un lit au-dessus de celui de mon père. On n'a qu'une pièce, alors c'est à la fois ma chambre, le salon et la cuisine.
Et c'est pas trop petit ?
Non, parce qu'on est souvent dehors.
Vous avez la télé ?
Non.
Ça te manque pas ?
Ben non.
Tu sais lire ?
Ben oui.
Qui c'est qui t'a appris ?
Mon père.
Les maîtres d'école ?
Non.
Alors comment il sait ?
Il sait plein de choses.
Et il y a des toilettes dans la roulotte ?
Oui.
Mais ça part où après ?
C'est des toilettes sèches, avec de la sciure.
Ça marche comment ?
On fait dans un seau et on recouvre de sciure, et de temps en temps, mon père va le vider dans la forêt.
Vous trouvez où, la sciure ?
Dans des scieries ou dans des magasins pour les animaux.
Comment il gagne de l'argent, ton père ?
Il en a.
De où ?
Je sais pas.
Je laisse les questions fuser. Les yeux des élèves trahissent la surprise, parfois l'envie, pour certains le dégoût, durant l'épisode des toilettes sèches en particulier. Dès qu'il y a un semblant de jugement, j'interviens pour ramener le débat à un échange. Je leur apprends depuis le premier jour à respecter les autres dans ce qu'ils sont, pensent, vivent, ressentent. C'est difficile pour certains de faire la part des choses quand ils n'ont jamais entendu que des jugements préconçus au sein de leur famille. Mais je ne lâcherai pas cet aspect de mon enseignement tant je pense qu'il est la base de tout le reste. Anna Nina s'est détendue, et elle semble ravie de l'intérêt que les autres enfants lui portent, maintenant qu'elle est assurée qu'ils ne sont pas dangereux. Mais il y a la question d'Arthur, l'enfant discret, sensible, attentif, qui ne ferait pas de mal à une mouche, et qui la pose probablement avec bienveillance.
« Et ta maman, elle n'est pas avec vous ?»
Anna Nina se tourne vers moi en appelant de ses yeux une réponse. Doit-elle leur dire ou pas ? Je cligne doucement les paupières pour approuver.
Elle est morte quand je suis née.
Je leur apprends le respect des autres, mais aussi ce qu'est la vie, la vraie vie, sans leur cacher ce qui peut faire de la peine. Ils le savent sans qu'on leur dise de toute façon. Les enfants restent silencieux un moment en se regardant ou en fixant le bout de leurs chaussures.
Mais mon papa me dit que c'est pas de ma faute et que c'est la vie qui a décidé comme ça. Que de toute façon, on n'y peut rien. Alors je suis heureuse quand même.
Respiration générale. Cette petite est incroyable de sagesse et de maturité. J'en profite pour mettre fin à cette séance découverte et reprendre le cours où je l'avais laissé mardi, après avoir installé Anna Nina à côté de Charlotte. Tout au long de la journée, je m'aperçois qu'elle a un sacré train d'avance sur les autres, dans la plupart des matières. C'est assez impressionnant. Par moments, elle se lève pour aller aux toilettes ou boire un verre d'eau sans attendre la récréation, sans même en demander l'autorisation. Mais comment lui en vouloir ? C'est ainsi qu'elle a appris à vivre, en respectant ses besoins naturels, sans contrainte. Ce sont les autres enfants qui devraient fonctionner ainsi, mais tout le monde me répondra que c'est impossible dans une collectivité. J'y réfléchirai. Finalement, cette petite va peut-être nous ouvrir de nouveaux horizons. Quand la sonnerie de 16h retentit, je vois Charlotte lui faire un bisou et lui offrir un dessin, puis lui lancer « à demain » avec le sourire naturel de l'innocence. Lorsque les derniers enfants quittent la classe, je viens m'asseoir à côté d'elle et je lui demande comment elle a vécu cette première journée.
« J'ai bien aimé, mais je ne sais pas si je dois le dire à mon papa. »
« Pourquoi tu ne lui dirais pas ?»«
Parce que peut-être qu'il n'a pas envie que l'école me plaise. » Puisque je n'y vais jamais.
Je pense qu'il a surtout envie que tu sois heureuse. Si tu vis quelque chose d'agréable, je ne pense pas qu'il faille le lui cacher. Il attend de toi que tu lui dises la vérité de ce que tu ressens, non ?
Mais si ça lui fait de la peine ?
Il est grand, et même s'il a de la peine, il saura se réjouir de ce que ça t'a apporté.
Je pourrais revenir demain ?
Bien sûr, et tous les jours qui suivent si tu le souhaites, et si ton papa est d'accord.
Charlotte est gentille. Elle m'a donné son dessin. Je lui en ferai un ce soir pour lui donner demain.
C'est une bonne idée. On va raconter tout ça à ton papa ?
Je fais signe à Gaël que nous rentrons et qu'il veuille bien fermer l'école.
Il lève le pouce en guise d'accord avec un clin d'œil et lance un baiser aérien qui s'envole au bout de ses doigts. Le temps de rejoindre la voiture, Anna-Nina m'a pris la main. J'ai plaisir à tenir la sienne. Cette petite est attachante. Elle dégage une énergie magnétique et solaire. Elle ne parle pas dans la voiture et regarde par la fenêtre. Son corps suit les mouvements du véhicule, comme si elle n'y opposait aucune résistance. Se laisser aller dans la vie, sans chercher à maîtriser la trajectoire. J'espère que son père fera de même.
« Papa !»
crie-t-elle en l'apercevant qui revient du hangar après nous avoir entendu arriver. « Alors, ma puce, c'était bien ?» Je l'observe du coin de l'œil en sortant ma sacoche de la voiture. Elle ne montre pas le même entrain qu'après la classe. Cette petite a la finesse d'épargner son père. C'est tellement touchant que je sens monter une bouffée d'émotion dans ma gorge. Ces deux-là ne font presque qu'un, tant ils se sont construits un monde où l'absence de l'autre n'est même pas envisageable. Sa souffrance encore moins. Et pourtant...
Je pourrais y retourner demain ?
Il faut voir ça avec Valentine, lui répond-il en me cherchant du regard. Elle connaît la réponse, évidemment, mais elle a l'élégance de laisser son père penser que c'est lui qui décide. Je la vois ensuite s'engouffrer dans la cuisine en nous criant qu'elle va se préparer une tartine parce qu'elle est affamée et qu'elle va voir Gustave qui lui a promis la veille de l'attendre pour semer les haricots. Je m'assois sur le rebord extérieur de la fenêtre, en espérant qu'Éric fera de même, pour parler un peu de sa fille. Rien n'est moins sûr. Nous la voyons dévaler les trois marches du perron avec son énorme morceau de pain généreusement beurré et dégoulinant d'une confiture de fraises qui atteint déjà son poignet. Elle court en direction du jardin en lançant « à tout à l'heure » sans même se retourner. Éric ne lève pas la tête, peut-être pour ne pas montrer son dépit. Il s'affaire sur un morceau de bois qu'il est en train de tailler avec un couteau. Les réparations avancent ? Oui, doucement. Anna-Nina nous a parlé de vos conditions de vie. Ça semble ingénieux. On n'a pas le choix dans une roulotte. Il faut gérer l'espace au mieux pour être à l'aise. J'aimerais la visiter, c'est possible ? Si vous voulez. Maintenant ? Gustave a au moins 300 graines de haricots en stock. Je vous préviens, c'est un peu le chantier. Et alors ? Il fait un petit geste de la main semblant signifier « alors rien » et se met en route vers la roulotte. Il me précède pour monter les trois marches de l'escalier à l'avant du véhicule. Un petit banc se trouve là, mais il m'explique qu'il ne dirige les chevaux que debout pour avoir une meilleure visibilité et surveiller le comportement des animaux. Un siège surélevé et confortable, à l'abri du toit, est installé là, probablement pour la petite. Puis il m'ouvre la porte. Et là, je replonge dans mes souvenirs d'enfance, avec cette impression d'entrer dans une maison de poupée. L'aménagement intérieur est tout en bois et tissu. Immédiatement après la porte vitrée de l'entrée, se trouve la petite cuisine, prolongée par un minuscule habitacle doté d'un miroir surplombant une grande bassine en céramique. Deux brosses à dents sont posées juste à côté, un rasoir, une brosse à cheveux et des élastiques roses. En dépassant ce minuscule espace, j'aperçois l'évier et le plan de travail. Vous avez un thermomix dans la roulotte ? Pourquoi pas ? Je fais tout avec cet appareil. Il n'y a pas un jour où je ne l'utilise pas. C'est très pratique. Mais comment faites-vous pour l'électricité ? L'électricité ? J'en ai à revendre. Je suis parfois obligée de laisser les ampoules allumées en journée pour ne pas bousiller ma batterie. J'ai des panneaux solaires sur le toit qui me fournissent largement ce dont j'ai besoin. Et pour l'eau ? J'ai une cuve sur le toit aussi, que je remplis plus ou moins selon le dénivelé que nous avons à franchir dans notre itinéraire. Les chevaux ne doivent pas trop se fatiguer non plus à tirer du poids inutilement. Mais où la trouvez-vous ? Dans les cimetières, les fontaines de village, chez les gens qui veulent bien nous en donner. Mais pour l'envoyer là-haut ? Une petite pompe ? Puisque j'ai trop d'électricité. Ça paraît tellement facile. Ça l'est quand on ne se crée pas de problème. Nous achetons de l'eau en bouteille pour ne jamais en manquer pour boire, mais si nous restons une journée sans eau courante pour nous laver, ce n'est pas dramatique non plus. On trouve toujours une solution. Et pour vous chauffer en hiver ? Nous avons un poêle à bois, Où trouvez-vous le bois ? Dans la forêt. Sinon, je l'achète. Je vous ai dit que je n'avais pas de problème d'argent. Et puis, notre vie ne nous coûte pas cher. Pas d'emprunt à rembourser, pas de voiture à entretenir ou d'essence à payer, très peu de matériel. Nous avons une vie simple. Et pour la lessive ? Il y a des lavomatiques un peu partout, ou des campings équipés, ou alors des habitants accueillants. Au pire, il y a les fontaines et les ruisseaux. Vous devez inspirer de la sympathie chez les gens, surtout avec la petite. Nous sommes bien acceptés, oui, mais ce n'est pas le but non plus. Je ne veux pas être dépendant. Et pour les chevaux, vous faites comment ? On s'adapte à leur rythme. Il faut simplement que je trouve de quoi les nourrir. Une bordure de champ, un coin de pré, les sous-bois en hiver. Et si vraiment c'est compliqué, on achète du foin. Je m'arrête dans les centres équestres ou chez les agriculteurs. La roulotte s'ouvre ensuite sur une pièce plus large, comprenant une table, à côté d'un poêle à bois, de nombreux rangements disposés en hauteur et le long des cloisons. Au fond, derrière une petite séparation en pin clair, se trouvent les deux lits, celui du père, en bas, assez large, et au-dessus un lit superposé pour la petite. Il abrite quelques poupées et peluches, et est bordé de deux petits rideaux qu'il doit fermer le soir pour qu'elle se sente dans son cocon. Une fenêtre en hublot lui permet de voir l'extérieur depuis sa couche. Elle doit s'y sentir bien. Il y a dans un coin de cette pièce un bureau supportant un ordinateur et une imprimante, avec de nombreux tiroirs remplis de feutres, de crayons de couleur, de matériel de bricolage, de papier de toutes sortes. En entrant dans leur maison roulante, je pénètre, troublée, dans l'intimité de leur vie. Je les imagine, le soir, lui à son ordinateur imprimant des dessins de coloriage ou des exercices, elle bricolant sur la table, au coin du feu. Un peu plus tard, lisant ensemble un livre dans le lit du bas, avant que la petite ne monte à son étage. Je les imagine cuisiner, puis manger sur cette même table, ou le soir se brosser les dents ensemble. Ils n'ont rien de marginal, si ce n'est leur mode de vie. Je suis troublée aussi quand ils se postent juste à côté de moi, le bras en appui sur la cloison en bois, presque au-dessus de mon visage. L'espace est exigu et la promiscuité inévitable. Je sens la chaleur de son souffle. Vous avez Internet ? Quand je suis dans un camping ou chez des gens qui me prêtent leur Wi-Fi, mais je ne l'utilise pas souvent. Pour relever mes messages ou faire des recherches sur nos prochaines destinations et sur les programmes scolaires, un peu. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Vous vous attendiez à quoi ? À de la saleté et du fourbi ? Des habits rapiécés et des vieilles casseroles bosselées ? Non, je ne m'attendais à rien, je crois. Je vais rentrer préparer le repas de ce soir et vous laisser à vos réparations. Vous êtes d'accord pour qu'elle revienne avec moi demain à l'école ? Ai-je le choix ? On l'a toujours ? Et si je vous disais que non ? Je vous dirais que c'est dommage et je serais déçue, mais pas autant qu'elle. Vous voyez que je n'ai pas le choix. Un peu plus tard dans la soirée, Anna Nina s'est empressée de finir son dîner et elle s'est installée sur la table basse du salon avec du papier et des feutres. Le dessin pour Charlotte. Elle ne dit rien. Eric non plus. Il range la grande table en silence. Elle vient de raconter tout ce qu'elle a fait à l'école, toutes les questions qu'on lui a posées, les enfants avec qui elle a joué. Son père lui sourit machinalement, mais je perçois la grimace qu'il tente de réprimer. Que pouvais-je faire d'autre ? Les laisser chez moi le temps de la réparation et les voir repartir sans avoir ouvert à l'enfant un champ de possible sur ce qui lui manque probablement ? Car l'école, ce n'est pas que l'instruction, c'est aussi la découverte des autres et la construction de sa personnalité à leur contact. Anna Nina termine son dessin et insiste pour monter se coucher seule, comme si elle avait grandi d'un coup. Notre moment tisane nous donne ensuite l'occasion d'aborder sa vie sociale à lui. Je n'ai jamais été très exubérant en société. On peut avoir des amis sans être exubérant. J'ai quelques amis. Je garde le lien grâce au téléphone, à l'internet et en leur rendant visite quand je le peux. Et vous n'avez pas d'amis avec un E ? Non. Quelle intimité avez-vous dans cette vie-là ? Je veux dire, quelle intimité d'homme ? Je ne suis pas sûre que la réponse vous regarde.
Vous n'êtes pas obligé de répondre.
Moi et mes questions directes, parfois sans penser à l'embarras qui s'ensuivra.
Mais je me suis vraiment fait la réflexion.
Cependant, Gaël me dirait que ce n'est pas parce que je me pose une question qu'il faut absolument que j'aie la réponse.
Je lui répondrai qu'il ne sert à rien de se poser des questions si on ne se donne pas les moyens d'y trouver les réponses.
Il ajouterait qu'il suffit de ne pas s'en poser. Auquel cas, je conclurai que ce n'est pas dans mes cordes.
Il approuverait, en se moquant.
Connaissant vaguement l'homme qui est en face de moi, il va se braquer. Et je me demande s'il ne regarde pas le fond de sa tasse de tisane en se demandant simplement s'il va partir en la laissant là, ou s'il aura au moins l'élégance de la déposer dans l'évier. Il fait tourner d'un mouvement régulier le restant de son breuvage, en ne le quittant pas des yeux. Les secondes passent, rythmées par la vieille horloge du salon qui tique et qui taque inlassablement sur son silence pesant. Et puis,
ça n'est pas vital. On peut vivre sans, me dit-il.
Ça fait du bien quand même.
Mais on peut vivre sans.
Ça fait partie de la santé globale.
Je suis en bonne santé sans ça.
Et vous?
Vous êtes seule aussi. Comment faites-vous?
Ça me manque. Je le reconnais.
Moi, je n'ai pas le choix.
Il n'y a pas de place dans la roulotte pour une femme.
Dans la roulotte ou dans votre vie?
Ma vie est dans la roulotte.
Il finit par avaler le restant de sa tisane et se lève pour rincer sa tasse sous un filet d'eau.
Ne vous inquiétez pas pour moi.
Je m'inquiète pour vous, au pluriel.
Nous allons bien, sans femme.
Il essaye de mettre une bonne dose de certitude dans sa voix pour affirmer cela.
Mais je vois dans ses yeux qu'il n'est pas si convaincu.
Il m'implore du regard d'y souscrire, alors qu'il ne semble pas y croire une seconde. Peut-on à ce point se mentir à soi-même ?